France Culture.
Et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé par Mélanie Chalandon, Léa Capuano, Sacha Mattei, Anouk Evno et Joséphine Reinhardt. Réalisé par Vivian Le Cuivre et à la technique ce matin, c'est Sofiane Aktib. Comme chaque vendredi dans Culture Monde, nous vous proposerons une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec notre partenaire du Monde. Bonjour Marc Semo.
Bonjour.
Au sommaire de l'émission de ce jour, au Sénégal, l'anatomie d'une transition. Ça fait maintenant plus d'un an que Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko sont au pouvoir, l'un président, l'autre premier ministre. Un dialogue national s'est ouvert avant-hier à Dakar pour définir les réformes politiques les plus urgentes et nécessaires. Voit-on poindre la rupture promise? Avec quels moyens et au service de quel projet? Nous en parlerons avec vous, Elgaz, bonjour.
Bonjour.
Eladj Souleymane Gassama, vous êtes chercheur associé à l'IRIS, producteur d'Afrique, mémoire d'un continent sur RFI et essayiste. Et nous serons également depuis Dakar avec Babacar Ndiaye, analyste politique et directeur de recherche à Wati, qui est un laboratoire d'idées basé dans la capitale sénégalaise. Mais d'abord, notre invité de retour de terrain, de retour de Syrie. Des ronds-points gardés par des hommes habillés en noir et équipés de Kalachnikov, des panneaux devant les mosquées qui demandent de déposer son arme avant d'entrer pour prier. Christophe Boltanski revient de l'ouest de la Syrie, de la ville de Homs, à mi-chemin entre Damas et Alep, une métropole qui concentre les fractures du pays près de 6 mois après la chute de Bachar al-Assad et l'arrivée au pouvoir d'Ahmed al-Shara et de sa coalition Ayat-Tahrir al-Sham. Alors il y a d'un côté des vainqueurs, les anciens opposants au régime syrien qui sont rentrés chez eux mais qui ont tout perdu, et de l'autre les vaincus, les anciens proches du régime, parmi lesquels de nombreux alaouites. Eux ont encore un toit mais vivent dans la peur des représailles. Bonjour Christophe Boltanski.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste et écrivain. Vous êtes très souvent allé en Syrie de 1991 à 2014, après la révolution, plutôt en zone rebelle. Là, vous rentrez de Homs, 6 mois après la chute de Bachar al-Assad. Homs l'a déchiré. C'est le long texte que vous publiez dans le journal Le 1. Parmi les endroits que vous avez visités pour comprendre la violence qui sourd et qui souvent explose dans cette ville malgré les promesses du nouveau pouvoir de construire une Syrie unie, eh bien vous allez à l'hôpital Ibn Walid. Qui furent, Christophe Boltanski, ceux dont l'infirmière en chef qui vous accueille récupère chaque jour les cadavres?
Oui. Alors pour décrire, l'hôpital Al-Walid se trouve dans un quartier qui s'appelle le quartier d'Al-Ouar, qui a été la dernière poche rebelle, donc qui a été, après la suite d'un accord, comme beaucoup d'autres villes rebelles, évacuée en 2017. Donc toute la population qui avait été précédemment déplacée dans ce quartier a ensuite été expulsée vers le nord, vers Idlib. Et donc dans cet hôpital, effectivement, chaque jour, la Sûreté Générale, donc la nouvelle police mise en place par Hayat Tahrir al-Sham, mais enfin par le président Ahmed al-Shara, dépose des cadavres. Et la première chose, moi, qui m'a surpris, c'est que j'avais l'habitude de la Syrie auparavant, et il y avait un trait qui caractérisait ce pays, c'était la peur. La peur, les gens ne parlaient pas. Et là, je vais dans cet hôpital, je vais voir le premier bureau, qui est le bureau de l'infirmière-chef, je lui demande, est-ce que c'est vrai que des corps arrivent tous les jours? Et non seulement elle me dit que c'est vrai, elle me dit que c'est exact, devant tout le monde. Il y a des gens qui rentrent, qui sortent, il y a ses collègues qui sont là. Elle m'ouvre le registre et elle me lit les rapports du médecin légiste. Ce sont des cadavres qui sont amenés donc quotidiennement, tous exécutés d'une balle dans la tête. Et elle n'a pas la certitude, mais ils sont presque tous à la huit.
La plupart restent inconnus, n'ont plus de visage et où la famille n'ose pas se manifester. Pour cela, l'équipe de l'hôpital prend des photos et enterre le corps avec un numéro de matricule au cas où les proches se mettraient plus tard en quête de leur disparu. Vous dites qu'elle n'a souvent pas la certitude qu'ils sont à la huit, aussi parce que même s'ils ont leur carte d'identité sur eux, la carte d'identité en Syrie ne précise pas la confession.
Alors non, oui et non. Elle ne précise pas la confession, c'est vrai, mais elle indique le village d'origine. Et le village d'origine permet à chacun, plus le patronyme, de savoir si telle personne est chrétienne, ismaélienne, ou sunnite ou alaouite.
Simplement, eux, souvent, n'ont pas leur carte d'identité avec eux, comme peut-être fait-il partie des cadavres récupérés ce jour-là par cette infirmière en chef, ce quincailler tué devant sa boutique par des hommes cagoulés à moto. Un jour où vous êtes à Homs, on vous le raconte, c'était à quelques encablures de là où vous êtes. Alors, celles et ceux qui aujourd'hui dénoncent, mais d'abord documentent, les exactions contre les alaouites à Homs, et qui souvent sont alaouites eux-mêmes ou elles-mêmes, vous racontent les incidents qui chaque jour recommencent, souvent quand la nuit tombe. Il faut d'abord revenir, il y a près de 6 mois en arrière, avant même la chute de Bachar al-Assad, le 8 décembre. Les rebelles syriens ont pris Homs la veille. Comment réagissent alors les alaouites qui se savent confondus avec le régime? Certains à raison, beaucoup à tort, on va le voir, mais que font-ils à ce moment-là?
Alors effectivement, c'est un exode massif. Ils partent tous en voiture, mais même en vélo, à pied, vers la bande côtière, qui est effectivement donc le près cette enclave qui où il y a une forte population alaouite, à Latakié, à Tartous.
Et de grands embouteillages.
Et des immenses embouteillages. Cette route qui fait 90 km jusqu'à Tartous, qui normalement se fait en une heure, ils vont la parcourir en 8, 9, 10, 12 heures. Et ils arrivent sur la côte, mais il y a quand même certaines personnes qui sont restées dans ces quartiers alaouites. Donc, au moment de l'arrivée des rebelles, ils rendent leurs armes, ceux qui en ont encore, et il ne se passe rien. Et donc, très vite, la nouvelle circule et les gens vont revenir petit à petit. Ils reviennent d'abord parce que ils ont le sentiment qu'effectivement il n'y aura pas de massacre, et aussi ils veulent préserver leurs biens, ils ont peur que leur maison soit pillée en leur absence.
Donc tout commence à dégénérer, entre guillemets, quand les prisons s'ouvrent et quand sortent des milliers d'innocents, mais aussi des criminels, que les enlèvements et les meurtres commencent. C'est à ce moment-là que les enlèvements et les meurtres d'Alaouite commencent.
Ça, c'est ce que me dit effectivement une personne qui m'a beaucoup aidé dans cette enquête. Et j'aimerais en dire 3 mots sur elle, parce que elle s'appelle Ala Al-Mahmeri. Elle est la nièce d'une très grande activiste dissidente sous le régime des Assad, qui s'appelait Samira Ralil, qui a disparu en 2013 à Douma. Elle avait documenté notamment les attaques chimiques à Douma, dans la Routa.
C'est aussi la nièce de Yassine Alhadj Saleh, dont l'anthropologue Franck Mermier était venu nous parler.
Donc, exactement, donc de ce grand intellectuel qui a passé de très nombreuses années en prison. Donc c'est une jeune femme qui a tout le temps combattu le régime des Assad, qui est alaouite elle-même, qui, elle, au moment de l'arrivée des rebelles, ne part pas, elle reste, et qui aujourd'hui vit dans la peur, parce que effectivement, les exactions sont commises contre tous les alaouites de façon assez indiscriminée. Enfin, c'est difficile à savoir. Certaines personnes sont certainement visées en tant que telles, d'autres le sont simplement à cause du fait qu'elles vivent dans un quartier alaouite. Et effectivement, elle me dit
elle vous dit, elle est alaouite elle-même, mais comme vous l'avez bien dit, engagée dès le début dans une résistance face à Bachar al-Assad. On ne peut absolument pas la soupçonner d'en avoir été alliée. Néanmoins, ce qu'elle vous raconte, c'est que donc elle a 30 ans à peu près, c'est que le régime de Bachar al-Assad avait tout fait pour que les communautés se déchirent, distribuer des armes à chaque homme valide, attiser les haines, attribuer des meurtres mystérieux à des infiltrés. Et ce quartier de Zara, où vous restez longtemps, Christophe Bolton, Tanski, quartier majoritairement alaouite, il est perçu comme un quartier traître, entre guillemets, à juste titre.
À juste titre, oui. C'est-à-dire que les enfants et les fils et les pères de ce quartier se sont enrôlés massivement dans l'armée et dans les milices, dans les fameuses Shabiras. D'ailleurs, en témoigne un cimetière où il y a des milliers de tombes de soldats qui sont tombés pendant la guerre. C'est aussi dans ce quartier que se trouvait ce qu'on appelle, et c'est terrifiant d'ailleurs, le nom qui était donné à ce marché, s'appelait le Souk Sunnite, parce que les quartiers rebelles étaient d'abord détruits. Ensuite, la population, les survivants étaient chassés et l'armée pillait systématiquement les maisons, et tous les biens dans ces maisons étaient revendus dans ces fameux souks baptisés sunnites. Donc on comprend très bien la provenance.
Jusqu'aux poignées de porte, écrivez-vous.
Exactement. Et c'est aussi dans ce quartier, il y avait une seule famille sunnite qui vivait encore au début de la guerre. Le père de cette famille va être un jour sorti de sa maison et égorgé en public dans la rue au vu et au su de tous. Donc effectivement, il y a tout ce passif qui ressurgit. Et donc, c'est très compliqué de savoir dans ces actes, dans ces meurtres qui sont commis, ce qui relève de la vengeance et ce qui relève de l'idéologie pure de groupes djihadistes.
Parce que parmi tous les alaouites, sous Bachar al-Assad et surtout à partir de la révolution 2011, de très nombreux alaouites sont, écrivez-vous, saisis d'une peur existentielle et se rallient à Bachar al-Assad et les voilà soldats, miliciens, pilleurs. Ce n'est pas le cas de tous, ce n'est pas le cas d'Ala al-Meri notamment, ce n'est pas le cas non plus de cet homme que vous rencontrez dans le quartier de Zara, il s'appelle Shehadeh Mayoub, c'est un architecte formé en France et toute la journée des habitants viennent le voir pour lui parler de proches donc des alaouites disparus ou arrêtés. Qu'est-ce qu'il peut faire pour eux?
Mais il participe également à cette association qui a été créée et qui est d'ailleurs en relation avec les nouvelles autorités et qui recense, qui documente toutes les exactions et qui effectivement interpelle la Sûreté Générale à chaque fois qu'un crime est commis. Les choses ne sont pas noires et blanc. La Sûreté Générale essaye de protéger ces populations, mais on les voit déployées autour de ces quartiers. Mais en même temps, malgré ce déploiement massif, qui parfois peut rappeler plutôt une forme d'encerclement, malgré ce déploiement, il y a quand même des crimes qui sont commis. Donc les gens, évidemment, se posent des questions. Est-ce que ces gens-là sont là pour nous protéger ou au contraire pour nous livrer aux tueurs?
Donc eux-mêmes, certains vous disent qu'ils ont intégré dans leur quotidien cette peur de la vengeance jusqu'à se laisser... pour certains, pousser la barbe pour passer inaperçu, ou des femmes qui se mettent à porter le hijab alors qu'elles ne le portaient pas jusque-là, d'autres qui disent qu'elles sont chrétiennes, un serveur alaouite qui, par crainte d'être enlevé également, dort dans le bar où il travaille. Pour mesurer la réalité de cette peur-là, vous avez aussi rencontré des sunnites. Alors c'est toujours difficile, Ala Khodmani nous avait dit récemment combien elle espérait le temps où on ne désignerait plus les Syriens par leur confession ou par appartenance à telle ou telle communauté. Alors parlons plutôt des opposants au régime de Bachar al-Assad, les anciens opposants au régime de Bachar al-Assad, pour beaucoup sunnites, ceux qui sont rentrés à Homs, est-ce qu'ils vous ont parlé d'un gros ressentiment qu'ils auraient, eux, vis-à-vis des alaouites, dont ils pensent qu'ils étaient tous ou presque alliés de Bachar al-Assad?
Alors, fort heureusement, c'est contrasté. Certaines personnes disent, voilà, bien sûr, la paix est possible, on peut vivre tous ensemble, y compris avec les alaouites, mais en excluant ceux qui ont du sang sur les mains. D'autres, évidemment, veulent se venger. Il y a un homme qui a établi son échoppe dans un squelette de béton avec des bouts de tissu et qui a absolument tout perdu, qui a lui-même été transbahuté pendant la guerre d'un lieu à l'autre. Il dit, voilà, la peur a changé de camp. Avant, c'est nous qui avions peur des alaouites et maintenant, ce sont eux qui ont peur de nous. Donc oui, bien sûr, il y a ce sentiment de vengeance. D'autant qu'il faut vraiment bien comprendre, cette ville est coupée en deux. À l'est, vous avez encore des quartiers alaouites qui, eux, sont intacts ou quasiment intacts. Et à l'ouest, des quartiers sunnites qui sont réduits à l'état de ruines. Et en plus, toutes ces personnes qui reviennent et qui reviennent pour habiter dans des décombres. Dans une misère absolue, il faut savoir que 90% de la population syrienne vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté avec moins de 2 euros par jour.
Donc c'est impossible de louer, par exemple, pour cette adolescente qui revient en Syrie avec sa famille qu'elle avait quittée à l'âge de 8 ans, impossible d'aller se loger ailleurs que dans la maison où ils étaient avant et qui est totalement détruite.
Exactement. Donc vous voyez, c'est très impressionnant, des squelettes en béton, des carcasses en béton, où tout est détruit, et au troisième étage, il y a un balcon et il y a du linge qui est en train de sécher. Donc là, il y a une famille qui s'est installée parce qu'elle n'a pas d'autre choix.
Et même si ce commerçant vous disait tout à l'heure, vous a dit, la peur a changé de camp, maintenant ce sont eux, les alaouites, qui ont peur de nous. Je sais pas si c'est le même, mais il y en a qui vivent quand même. Il y en a un qui, dans votre reportage, dort avec 7 chiens autour de lui pour se défendre parce qu'il trouve que les alaouites, les quelques alaouites de son quartier, le regardent de façon suspicieuse. Donc la peur est quand même partout. Elle infuse partout.
Oui.
Pas la même peur que celle sous Bachar al-Assad que vous avez connue, mais une peur de vengeance, de représailles.
En fait, ce qui est à Homs, hein, ce qui est très, très étrange, c'est ce mélange à la fois de peur qui est diffuse et qui mais qui est surtout maintenant perceptible dans les quartiers alaouites, et cette liberté de parole qui est incroyable. C'est-à-dire que même ce serveur alaouite, je le rencontre dans le centre-ville, alors que les quartiers alaouites la nuit sont vides, déserts. Les gens rentrent chez eux en courant dès que la nuit tombe. Dans les autres quartiers, les gens sortent, les restaurants fonctionnent, il y a même quasiment des embouteillages, etc. Et donc, dans ce restaurant qui est rempli d'hommes en armes, qui sont tous des combattants, d'anciens combattants de Rayat Tahrir Cham ou d'autres groupes rebelles, ce serveur nous parle librement. Il nous parle même des massacres commis dans un village alaouite à quelques kilomètres de là, à haute voix. Donc, j'ai même presque peur pour lui. Mais donc, il y a cette libéralisation de la parole et qui est très, très spectaculaire et qui aussi est peut-être un motif d'optimisme, parce que si les choses sont dites, peut-être que les choses évolueront dans le bon sens.
Est-ce qu'ils vous ont raconté aussi ce qui s'est passé à Homs, précisément, en mars dernier, quand une attaque menée sur la côte syrienne par des partisans de l'ancien régime, partisans de Bachar al-Assad, contre les nouvelles forces de sécurité, déclenche des représailles dans toute la Syrie.
Oui.
À Homs, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe?
À Homs, il y a, comme dans beaucoup de villes, des appels au djihad qui sont lancés depuis les mosquées. Donc, il y a des volontaires qui partent combattre sur la côte et qui vont être... évidemment, ces volontaires vont sans doute être aussi à l'origine de ces massacres. Hein. Donc, il faut comprendre qu'il y a d'abord donc des anciens, des fidèles du régime qui vont tuer 80 policiers de la Sûreté Générale dans le but explicite, hein, évidemment, de susciter des affrontements et de encourager la population alaouite à se soulever. Mais la population alaouite ne va pas bouger. Mais en revanche, tout de suite arrivent des groupes armés, certains d'ailleurs encadrés par la Sûreté Générale, qui vont commettre des terribles exactions contre la population civile. On estime entre 1300 et 1600 mort en quelques jours.
Alors, le nouveau dirigeant de la Syrie, Ahmed al-Shara, ancien djihadiste et qui prône aujourd'hui un islam conservateur et nationaliste, promet, depuis sa prise de fonction, de défendre toutes les minorités. Qu'est-ce qui a été fait depuis pour empêcher ces exactions dont vous nous parlez, ou quand il était trop tard, pour les punir?
C'est effectivement toutes les questions qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est-à-dire que Ahmed al-Shara, en public, tient des discours d'inclusion. Il promet effectivement d'être le président de tous les Syriens, de défendre les minorités, de punir ceux qui ont commis des massacres. Mais il a mis en place une commission d'enquête. Et en pratique, il s'est pour l'instant rien passé. Personne n'a été arrêté. Cette commission n'a jamais rendu ses conclusions. Donc effectivement, les gens se posent des questions dans la mesure où il y a eu énormément de vidéos qui ont été filmées, comme toujours dans ces massacres, qui circulent et qui sont reprises par des gens qui sont très proches d'Ahmed al-Shara. Donc, sur ces vidéos, on voit effectivement des hommes en uniforme qui portent justement cet uniforme noir de la nouvelle police syrienne.
Est-ce qu'il est question de mettre en place quelque chose qui ressemblerait à une justice transitionnelle?
Il y a une semaine, hein, il a annoncé la création aussi d'une commission pour réfléchir à la question de la justice transitionnelle, qui est évidemment essentielle. Si on veut mettre un terme aux actes, ce cycle sans fin de revanche, de vengeance, il faut mettre en place des outils de la justice transitionnelle, avec la difficulté que même si 90% des personnes qui ont été tuées pendant cette guerre l'ont été par le régime et par ses alliés. Il faut rappeler ça. Même Daesh, qui a commis des choses absolument épouvantables en termes de mort, en termes de destruction, ça n'a rien à voir avec ce qui a été fait et commis par le régime. Donc, mais il faut que cette justice transitionnelle ne s'exerce pas à sens unique. Il faut qu'elle juge aussi des gens qui sont maintenant dans le nouveau pouvoir syrien et qui ont commis des exactions.
Une dernière question, Christophe Boltanski, pour savoir comment vous avez réussi à contacter en amont de votre reportage pour préparer votre déplacement des Alaouites. Est-ce qu'il y a beaucoup d'Alaouites dans la communauté syrienne en France, à Paris par exemple?
Mais moi, c'est ça que je voulais quand même rappeler, parce que évidemment, les Alaouites massivement ont soutenu le régime, de gré ou de force, et le régime a tout fait d'ailleurs pour les prendre en otage, hein, pour qu'ils se rangent de leur côté. Mais il y a aussi beaucoup de figures Alaouites qui se sont opposées à ce régime et qui ont été très durement réprimées parce que justement, elles appartenaient à la minorité des Assad, comme Fadwa Suleiman, hein, qui était cette grande poétesse et qui était associée aux grandes manifestations à Homs au début de la révolution, comme Samar Yazbek, cette grande écrivaine qui a créé une association qui s'appelle Women Now, comme Samira Halil, justement cette femme dont je parlais tout à l'heure. Donc ce sont effectivement des Alaouites de Homs qui vivent en exil en France, qui m'ont donné des contacts, qui ont permis de faire cette enquête.
Et puisque vous citez Fadwa Suleiman, cette actrice et poétesse alaouite qui est devenue l'égérie de la révolte, qui est morte en 2017 près de Paris d'un cancer dans un quasi-oubli, écrivez-vous, eh bien, à Homs, on vous en parle, de cette femme, on vous en parle beaucoup. Merci beaucoup Christophe Boltanski.
Merci
d'avoir été avec nous. Homs, la déchirée, votre texte a paru dans le journal Le 1 en date du 14 mai, mais Le 1 reste très souvent en kiosque assez longtemps, donc on peut encore le trouver, un numéro intitulé « Où va la Syrie ?». Je mentionne aussi votre prochain article, apparaît dans la revue 21 sur des hommes d'affaires syriens sous Bachar al-Assad.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Le groupe franco-syrien Sarab, cette chanson date de 2021, pour conclure notre table ronde sur la Syrie, que l'on quitte pour le Sénégal, un an après l'élection de Bassirou Diomaye Faye comme président, arrivé au pouvoir avec son acolyte du PASTEF, le Premier ministre Ousmane Sonko, anatomie d'une transition.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Un bref rappel d'abord de ce qui s'est passé l'année dernière au Sénégal, une élection présidentielle à laquelle se représentait le chef d'État sortant Macky Sall, des opposants qui dormaient en prison, au premier rang desquels le virulent Ousmane Sonko, dont l'arrestation avait fait descendre dans les rues des milliers de jeunes qui voyaient en lui l'avenir du Sénégal, mais aussi Bassirou Diomaye Faye, plus discret, plongé dans ses livres. Le pouvoir en place qui voit venir la candidature d'Ousmane Sonko le déclare inéligible, mais pas Bassirou Diomaye Faye. C'est donc sur ce dernier que mise alors leur parti commun, le PASTEF. Son compagnon de cellule devient même son goûteur attitré. C'est qu'il faut à tout prix protéger celui qui pourrait bien être le prochain président. Alors finalement libéré à la faveur d'une loi d'amnistie, Bassirou Diomaye Faye remporte l'élection dès le premier tour. Son duo avec Ousmane Sonko comme premier ministre gouverne donc le Sénégal depuis plus d'un an, essayant de faire advenir le Sénégal nouveau qu'ils avaient tant promis. Et en même temps qu'il faisait arrêter un ancien ministre de Macky Sall lundi pour détournement de fonds, le président Faye ouvrait un grand dialogue national incluant la société civile.
Mon rôle en tant que garant de l'unité nationale est de tendre la main à toutes et à tous pour rassurer, pour rassembler, pour apaiser et réconcilier, afin de conforter la paix et la stabilité indispensable au développement économique de notre pays. Dans cette dynamique, le gouvernement assumera la plénitude de sa mission. L'opposition sera respectée et exercera librement ses droits dans le respect de la loi.
Bonjour Elgas.
Bonjour Julie.
Merci beaucoup d'être avec nous. Elhadj Souleymane Gassama, vous êtes chercheur associé à l'IRIS, producteur d'Afrique, Mémoire d'un continent sur RFI. Vous êtes aussi essayiste. Votre dernier livre, Les bons ressentiments, essai sur le malaise postcolonial, apparu aux éditions Rive-Neuve. Vous rentrez tout juste de Dakar, où se trouve quant à lui Babacar Ndiaye. Bonjour monsieur. Est-ce que vous êtes avec nous, Babacar Ndiaye?
Bonjour.
Oui, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes analyste politique et directeur de recherche à Wati, qui est un laboratoire d'idées basé dans la capitale sénégalaise. On commence, comme chaque vendredi, avec votre éditorial Marc Semo, Le désenchantement un an après.
Oui, Julie, alors, effectivement, la victoire est écrasante, 54% des suffrages pour cet inspecteur des impôts, Bassirou Diomaye Faye, qui était le candidat par défaut d'Ousmane Sonko, le leader très charismatique de l'opposition, qui avait été empêché de se présenter à cause de ses ennuis judiciaires. Et ce vote avait mis fin à une crise préélectorale que tu évoquais, qui avait causé une soixantaine de morts en 3 ans, avec l'acharnement de l'ancien président Macky Sall pour se maintenir au pouvoir. Et la démocratie sénégalaise avait montré sa résilience. Le nouveau pouvoir du PASTEF, une force aux accents volontiers populistes, en témoigne son nom, patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, c'est un nom magnifique, était porteur d'un immense espoir. Il promettait notamment un profond renouveau de l'action publique, la lutte contre la corruption, la renégociation des contrats pétroliers et une prise de distance avec la France. En novembre, la nouvelle équipe triomphait même aux législatives, avec une très vaste majorité, et pouvait avoir les moyens de sa politique. Mais l'heure, aujourd'hui, est à un certain désenchantement, alors que l'aide internationale se tarit, que le contexte économique se détériore sérieusement, l'agence de notation Moody's a encore dégradé la note du pays, l'ancien pouvoir avait en outre maquillé les chiffres des comptes publics, avec un déficit public réel qui atteint 12% du PIB et une dette à 99%. Donc, le PASTEF accuse le legs de l'ancien régime, probablement à raison. La situation est catastrophique et inquiétante, a martelé Ousmane Sonko devant les députés. Mais la dégradation de la situation économique ne lui laisse guère d'autre choix que de devoir mener une sévère cure d'austérité, oubliant les immenses attentes dont il était porteur.
Merci beaucoup Marc Semo. Je sens qu'il va y avoir du débat quant au désenchantement dont vous parlez. Désenchantement pour qui, pourquoi? Babacar Ndiaye, peut-être vous d'abord qui êtes à Dakar. Est-ce que vous avez pu suivre le début du dialogue national qui a commencé avant-hier? À qui est-il ouvert? Et comment s'organisent, comment s'articulent les discussions autour d'un thème très spécifique qui a été choisi pour ce dialogue? Ce sont les réformes politiques.
Oui, tout à fait. Vous l'avez bien indiqué. Vous savez, au Sénégal, la journée du 28 mai est consacrée au dialogue national. Cette journée de dialogue avait été instituée par l'ancien président, donc Macky Sall, et le nouveau président a perpétué d'une certaine manière cette tradition en invitant les acteurs politiques, les syndicats, société civile et autres composants de la population à participer à ce dialogue. Et le thème de cette année est consacré au système politique avec 3 points principaux, on va dire, la démocratie, liberté et droits humains, le processus électoral et enfin les réformes institutionnelles. Ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y a une bonne participation de l'opposition quand même si le parti de l'ancien président Macky Sall a décliné l'invitation. Et les commissions vont commencer aujourd'hui le travail de réflexion autour de propositions et de réformes concernant le système politique sénégalais.
Il a décliné l'invitation, bel euphémisme, pour dire que le parti de Macky Sall a boycotté cette discussion. Je crois qu'il y était de toute façon invité. Alors parmi les pistes de discussion, Elgas, il y avait cette promesse faite il y a un an par le PASTEF de réduire les pouvoirs du président. Peut-être un mot sur cette réforme en particulier, parce que réduire les pouvoirs du président, on pourrait se dire que ça revient à en donner davantage à celui qui est appelé le président bis, ou plutôt président Ousmane Sonko, pros, qui est en fait Premier ministre. Donc qu'est-ce que ça veut dire réduire les pouvoirs du président en l'occurrence ?
Alors, c'est une réforme qui a été concoctée par un des cerveaux, un des spin doctors du régime actuellement, Sidi Alpha Ndiaye, qui est un universitaire et qui est un des chefs de cabinet de Bassirou Diomaye Faye. L'idée, c'est de déloger le trop plein de pouvoir du siège présidentiel pour le transférer au niveau du Premier ministre. Ce qui fait de l'exécutif un exécutif macrocéphale, encore une fois. Et donc, on change la bicéphalité pour une macrocéphalité pour une problématique qui a été une problématique centrale dans le raidissement du pouvoir et puis dans la trajectoire de manière générale du système politique sénégalais depuis très longtemps. L'hyper-présidentialisme a toujours été le grand problème du système politique sénégalais parce que c'est trop de pouvoir, l'immixion régulière donc de l'exécutif dans le judiciaire qui le considère donc comme une forme de bras répressif, et ça commence depuis les années 60, hein, depuis l'accession du Sénégal à l'indépendance. La première élection de 63 de Senghor donne lieu à des manifestations colossales et justement énormément de morts déjà, et puis le règlement de compte entre Senghor et Mamadou Dia, et ça a continué jusqu'à récemment avec naturellement Macky Sall qui peut-être a donné un caractère beaucoup plus industriel à cette intervention massive justement du président dans les affaires judiciaires. Alors, il y a une volonté de réforme. C'est un pouvoir volontaire, velléitaire, mais assurément pour l'instant un peu trop brouillon. Et la tentation que l'on peut avoir quand on regarde ça de l'extérieur, c'est de saluer une certaine forme de dynamique, une certaine forme d'énergie, mais avec peut-être une exigence à la fois de pertinence, d'un ciblage, et puis peut-être s'adresser aux Sénégalais dans leurs demandes les plus urgentes, ce qui ne semble pas être le cas. Et je pense d'ailleurs que Marc Sémo le disait dans son éditorial, c'est-à-dire cette cure d'austérité qui se profile pourrait être justement le catalyseur d'un désenchantement massif pour les jeunesses qui ont porté ce pouvoir justement à la présidence de la République et à la tête du pays.
Marc Sémo.
Justement, il y a une victoire présidentielle écrasante, une victoire aux législatives encore plus, une majorité absolue. Donc, le pouvoir a tous les du pastef a tous les leviers en main. Alors, qu'est-ce qui fait que, finalement, ben voilà, on est à un peu plus d'un an et il ne s'est rien passé de significatif?
Peut-être un tout petit mot, Lucas, si je demanderais à Babacar Diaye une réponse.
Oui, il me semble qu'il est prématuré pour l'instant d'accabler pastef et de réduire à néant tout son bilan très précoce, ou même aussi de lui tirer des lauriers. On est dans une longue période, un long tunnel d'incertitude. Et bien sûr, il y a plusieurs responsables. Pastef aurait tendance à imputer tous les malheurs du pays à l'ancien régime, ce qui est ce qui est classique et surtout un tout petit peu faux, même s'il y a une part de vrai. Mais il y a aussi une série de réformes, une conjoncture internationale, un passif dans le lexique de Pastef, qui s'est mis à dos beaucoup potentiellement de partenaires potentiels du Sénégal, notamment les financiers.
Alors, c'est vrai qu'on sent poindre des impatiences, Babacar Ndiaye, notamment par les militants du Pastef eux-mêmes, qui sont très largement invités, très souvent, à donner leur avis sur des plateformes, etc. Et on verra si ce sont le seul contre-pouvoir qui reste, parce que les médias, par ailleurs, eux, dénoncent une forme de pression qui leur est faite aujourd'hui. Mais quand... eux disent, les personnes qui ont pris le pouvoir au PASTEF, on n'est pas dans une logique d'alternance, mais on est dans une logique de rupture, et ça change tout. Ça change quoi au juste, Babacar Ndiaye, dans l'exercice du pouvoir et dans son rythme, dans le rythme des réformes?
Oui, je crois que c'est la principale question aujourd'hui qu'il faut se poser, parce que souvenez-vous, le parti PASTEF et le président Diomaye Faye a été élu sur la base d'un discours vraiment basé sur cette volonté de rupture, de procéder à des changements dans la gestion du pays. J'entends tout à l'heure le terme de désenchantement. Je pense que quand même, on est à un an de pouvoir, et il faut voir un peu qu'est-ce qui s'est passé durant ces un an-là. Vous savez, lorsqu'on vient au pouvoir, il y a d'abord cette situation qui est la situation de prise en main justement du pouvoir, de la gouvernance, j'allais dire, avec les différentes nominations, le gouvernement, le cabinet du président, mais aussi les nominations au sein des ministères et des agences et des services de l'État. Cela, évidemment, prend du temps parce que ces hommes-là arrivent aux affaires, ils doivent prendre les dossiers en main. Après cela aussi, on a eu des éléments qui ont été posés sur la table par le nouveau président, notamment la question de la justice. Et je trouve que le fait d'avoir organisé des discussions sur la situation de la justice aujourd'hui au Sénégal, vous savez, ça a été l'une des nombreuses critiques durant les 4 dernières années avec tout ce qui s'est passé en termes d'affaires judiciaires. Il y a eu des discussions qui ont concerné la justice. Et à l'issue de ces discussions-là, il y a un comité aujourd'hui qui réfléchit à justement comment transposer les différents points les plus urgents en projet de loi ou proposition de loi dans les prochains jours. Donc, c'est pour vous dire que oui, ils sont arrivés dans un contexte difficile avec évidemment l'économie aussi qui est très très importante parce que c'est ça qui intéresse aussi les populations. Mais je crois qu'il est difficile vraiment de parler de bilan en l'espace de un an dans la séquence qu'on a pu voir. Maintenant, l'enjeu, ce sera de se projeter sur cette année et les prochaines années pour voir finalement tout le discours qui a été prononcé autour de la rupture, au fait de lutter contre la corruption, la reddition des comptes, est-ce que ce discours-là s'installe et est-ce que les populations voient des changements notoires dans leur vécu au quotidien? Et je crois que c'est à ce niveau-là que le parti PASTEF et le président Diomaye Faye est attendu. Mais au bout d'un an, je crois qu'il y a des étapes par lesquelles il fallait passer, et notamment la prise en main du pouvoir. On sait que c'est toujours une période aussi à mettre en œuvre aussi
un programme qui avait été vraiment très largement détaillé à l'époque avant l'accession au pouvoir de PASTEF. Elgas, il se trouve que vous rentrez juste du Sénégal, vous étiez il y a deux jours et que vous y êtes allé aussi dans une démarche de savoir ce que les... Ça faisait deux ans que vous n'y étiez pas allé, donc avant l'élection de Diomaye Faye. Qu'est-ce que vous ont dit les personnes que vous aviez peut-être déjà interrogées à l'époque, qui avaient des attentes et aujourd'hui qui peuvent faire des constats? On va dire, qu'est-ce qu'elles vous ont dit?
Alors, sociologie minimale sur un petit panel à Ziguinchor, qui est de ma ville, où Sonko était le maire de cette ville. Et c'est une ville qui a été très importante dans son ascension. C'est le fief de sa plus grande popularité, quand il a eu d'ailleurs ses ennuis dans ce long tunnel judiciaire duquel il sortira finalement amnistié. Il avait trouvé refuge, justement, à Ziguinchor, en appelant d'ailleurs ses partisans à protéger son domicile. Donc, cela montre la grande popularité qu'il y a là-bas. Il y a deux ans, j'étais au Sénégal, on sortait d'un mois de juin chaotique, et j'avais posé juste une question qui a été justement la matrice d'une enquête que j'avais publiée dans Afrique 21, Ousmane Sonko jusqu'à la mort. C'était le titre qui reprenait d'ailleurs un des slogans que donnait un taxi. Et les taximans sont des baromètres d'une forme de sociologie et qui disent une certaine forme de vérité dans la vie quotidienne et urbaine au Sénégal. Et deux ans après, il n'y a peut-être pas un désenchantement absolu, il n'y a pas une inversion totale, mais il y a des doutes. Et il y a justement un horizon qui s'ennuage. Il n'y a pas véritablement beaucoup de certitudes aujourd'hui. Je vais donner juste un exemple. Sur une dizaine de taxis, il y en a sept qui sont déçus, clairement déçus. Mais la déception ne vaut pas disqualification. La déception, c'est qu'on ne s'attendait pas à ça. Et puis, il y en a deux, par exemple, sur la dizaine, qui disent qu'il faut donner du temps au régime, que prendre un pouvoir, lui imprimer sa marque, créer un nouveau système d'une certaine manière, ça doit avoir un processus de maturation pour avoir les leviers, justement, pour donner des résultats. Et puis, il y en a un ou deux après et qui sont fièrement, dans une logique justement d'adhésion, presque parfois de fanatisme, et qui singularise la figure d'Ousmane Sonko comme si elle était dépositaire d'une forme de messianisme absolu, malgré le chaos conjoncturel. Je dis cela parce que PASTEF a tenu un discours qui a été très généreux en critique, avec un ciblage multiple, avec des ingrédients naturellement d'un populisme et d'une démagogie absolue, avec des affinités d'ailleurs avec des pays que l'on voit dans la sous-région comme le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Maintenant, la réalité justement du discours d'accession se heurte au réel du pouvoir où on s'occupe justement du destin des Sénégalais. Et ils sont pris justement fondamentalement dans cette contradiction entre parfois un désir inconscient d'insurrection et de violence qui les a caractérisés et pourtant ils ont gagné le pouvoir par les moyens les plus démocratiques. Et un tout dernier point, c'est-à-dire toutes les oppositions ont tendance parfois à cibler et à fantasmer le système. Et pourtant, une fois qu'ils sont au pouvoir, ils réhabilitent le système. Et c'est peut-être justement le soufflet qui retombe aujourd'hui avec PASTEF, avec un état de grâce qui, bien sûr, s'essouffle actuellement.
Marc Sémo.
Oui, alors, Dans ce contexte justement régional dont vous parliez, Burkina Faso, Mali, Niger, comment se situe le Sénégal dans ses relations avec la France? Alors, il y a eu le départ de 300 soldats français, ce qui n'était pas une des bases centrales, mais quand même, les relations ont l'air complexes maintenant.
Oui, je voudrais poser la question à Babacar Ndiaye, s'il vous plaît. C'est vrai que le PASTEF avait à la fois bâti son discours sur le panafricanisme et cette volonté de modifier en profondeur les liens du Sénégal avec la France était un élément essentiel de la campagne du duo Faye-Sonko. Ce départ des soldats français, par exemple, est-ce qu'il a été contraint par les nouvelles autorités sénégalaises ou est-ce qu'il était de toute façon déjà décidé et opportunément relayé ou relaté par Ousmane Sonko comme résultat d'un bras de fer? Parce que c'est ce qu'il dit. Il dit c'est un bras de fer qu'on a engagé avec le gouvernement français. On a obtenu ce départ des soldats français.
Vous savez, dans le schéma, j'allais dire, de PASTEF, il y a cette volonté de procéder aussi à une forme de souveraineté à plusieurs niveaux, économique, politique et aussi, d'une certaine manière, militaire. Et donc, je crois qu'il y a une discussion entre la France et le Sénégal pour le départ de ces militaires français. Mais cela aussi, lorsqu'on écoute les personnes qui sont au PASTEF, notamment aussi au gouvernement, cela procède de la logique aussi de renforcer cette souveraineté. Et donc, je crois aussi qu'il faut faire attention parce que, dans ce que j'entends, on a l'impression que le nouveau pouvoir a une fixation sur la France. Mais ce que l'on observe lorsqu'on écoute un peu les dirigeants, ils disent qu'au fond, il n'y a pas de problème avec un pays ou un autre. Ce qui est aujourd'hui, l'enjeu aujourd'hui pour le nouveau pouvoir, c'est de procéder à nouvelles formes de coopération avec tous les pays dans le monde. Et cette coopération-là doit s'inscrire sur le respect mutuel des deux parties et aussi cette idée d'avoir une coopération gagnant-gagnant. Et je crois que ce qui se passe aujourd'hui avec un pays comme la France, mais avec d'autres pays aussi, c'est de s'inscrire dans cette logique-là, d'avoir une coopération qui est beaucoup plus ouverte et de voir aussi à chaque fois qu'est-ce que le Sénégal peut gagner dans ce type de partenariat-là. Donc oui, aujourd'hui, on assiste au départ des militaires français qui va être de manière graduelle au cours de l'année 2025, mais je crois que ça a été le fruit d'une discussion entre les deux pays, même si ça a été aussi la volonté de vous pouvoir de procéder à ce départ des militaires français.
C'est ce que dit Ousmane Sonko, il dit que la décision a été prise par le Sénégal, découle de sa seule volonté en tant que pays libre, indépendant et souverain. Il y avait aussi avec Emmanuel Macron, Elgas, cette passe d'armes entre guillemets, sur le massacre de Tiaroy. Donc on rappelle ce que c'est que ce massacre de Tiaroy, le 1er décembre 1944, dans le camp militaire de Tiaroy près de Dakar, l'armée française avait ouvert le feu sur des tirailleurs sénégalais qui réclamaient le versement de leurs soldes. Emmanuel Macron déclarait en août dernier que chaque victime serait reconnue comme morte pour la France. Ousmane Sonko de répondre, ce n'est pas à la France de fixer unilatéralement le nombre d'Africains trahis et assassinés, ni la portée de la reconnaissance et des réparations qu'ils méritent. Au-delà de ça, et d'une discussion mémorielle qui est de toute façon intéressante, on n'est pas manifestement dans un rejet de la France comme on peut le voir au Mali, au Niger, au Burkina Faso.
Oui, j'avais utilisé un oxymore pour en parler. On est en face des révolutionnaires pragmatiques. Une fois qu'on arrive un peu au pouvoir, les réalités sont beaucoup plus complexes. Et oui, Ousmane Sonko est dans un registre performatif et guerrier du discours, comme d'habitude, au risque parfois d'aller un peu trop vite sur les faits. Naturellement, la reconfiguration du dispositif militaire français en Afrique est l'objet naturellement d'une concertation en Côte d'Ivoire et puis d'un processus accéléré comme au Tchad où c'était tout à fait inattendu. Mais pour le Sénégal, le processus avait été enclenché dès Abdoulaye Wade. C'est vrai qu'aujourd'hui, la nature du régime, son discours qui a fait sa popularité, son argument de rupture et de souveraineté a beaucoup plus de force. Mais naturellement, ces départs-là ne se font pas de manière unilatérale. C'est toujours une manière de se concerter et puis de décider ensemble. Alors, peut-être un aspect très important, vous avez intitulé l'émission « Anatomie d'une transition ». Pour comprendre justement toutes ces logiques qui traversent aussi un parti comme PASTEF, il faut faire l'anatomie d'un parti. C'est un patchwork géant où on trouve de tout. Il y a des libéraux, ce qui est très curieux. Il y a des universitaires de gauche à la sophistication très très affirmée. Il y a d'anciens marxistes, je veux dire, qui pendant longtemps ont suivi des vieilles lunes et qui trouvent dans le véhicule de PASTEF justement un argument de renaissance. Il y a ces fiscalistes noyaux durs premiers de PASTEF, qui parfois peuvent avoir un logiciel fiscal dans leur approche du pouvoir, et dans une société où l'économie est à 70%, sinon plus, informelle, cela pose parfois des contradictions majeures. Et il y a une jeune élite, et puis des déçus très très nombreux de Macky Sall. Cela peine... cela rend difficile toute forme de lecture linéaire et d'une visibilité absolue de leur ligne politique. Et d'ailleurs, Rémi Carayol a fait un papier justement sur les composantes de PASTEF.
Vous parlez des fiscalistes et du poids des fiscalistes dans ce nouveau gouvernement. Alors, il se trouve que plusieurs mesures ont été prises récemment ou plusieurs annonces ont été faites au nom des finances publiques. Par exemple, lundi, Mansour Faye, l'ancien ministre de Macky Sall, qui est aussi son beau-frère à Macky Sall, député maire de la ville de Saint-Louis, a été incarcéré dans une prison de Dakar, inculpé pour complicité de détournement de deniers publics pour son action quand il était à la tête du ministère du Développement communautaire en 2019-2020. Donc il est accusé d'avoir détourné de l'argent d'un fonds qui était fait pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Il y a aussi des arguments fiscalistes ou économiques avancés quand il s'agit de faire fermer des médias, des chefs de télévision par exemple, qui doivent fermer officiellement parce qu'elles ont des arriérés de paiement et que ça ne va plus du tout. Donc comment faire le tri, Babacar Ndiaye, dans toutes ces annonces, entre ce qui relève vraiment d'une passion, comme vous avez dit tout à l'heure, Elgas, un logiciel fiscal, et de ce qui relève d'un début de chasse aux sorcières? Ça, c'est la terminologie empruntée à Macky Sall, c'est vraiment ce que dit l'ancien président.
Oui, vous savez, l'opposition aura toujours sa manière d'analyser la situation avec ses mots qui lui sont propres. Je crois que le président de la République s'est inscrit dans une logique aussi de transparence, de bonne gouvernance, et je crois que c'est important parce que l'une des raisons aussi qui a fait que finalement PASTEF a gagné, c'est cette volonté aussi d'avoir une meilleure gouvernance dans la gestion des deniers publics. Parce que souvenez-vous du temps du président Macky Sall, il y a eu de nombreux scandales, et même on se souvient de cette phrase du président Macky Sall disant qu'il avait mis le coude sur certains dossiers. Donc aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est cette volonté d'aller vers plus de gouvernance avec cette reddition des comptes. Mais la reddition des comptes aussi s'inscrit dans l'ordre normal des choses. Vous savez, en février dernier, la Cour des comptes a sorti l'audit des comptes publics de 2019 à 2024. Et c'est là qu'on s'est rendu compte de l'état réel du pays, avec un déficit qui n'est pas ce qui a été annoncé, de même que la dette. Donc oui, aujourd'hui, des ministres sont inquiétés, mais ils doivent juste rendre compte de leur gestion et devant les tribunaux. Et à ce niveau-là aussi, il faut rappeler quand même qu'on parle de montants qui sont très élevés. Vous parlez de l'ancien ministre Mansour Faye aussi, dont vous rappelez qu'il était aussi le beau-frère du président. Il a eu à gérer des fonds importants dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Et c'est à ce niveau-là aussi qu'il a été appelé. On lui a demandé de se justifier sur la gestion de ces fonds-là. Mais en réalité, je crois que l'un des marqueurs forts aussi, c'est cette demande au niveau des populations d'avoir vraiment de la transparence, de la bonne gouvernance dans les données publiques. Un élément aussi important que je voudrais aussi indiquer ici, c'est cette jeunesse sénégalaise. Parce qu'au fond, qui a porté le PASTEF et le président Diomaye Faye, qui était un inconnu il y a encore 3 ans du grand public au pouvoir, parce que Ousmane Sonko l'a proposé aux Sénégalais, c'est cette volonté aussi de répondre aux préoccupations des jeunes. Aujourd'hui, la population sénégalaise est composée majoritairement de jeunes, et on dit qu'il y a à peu près 200 000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. Je crois que c'est ça, c'est les questions essentielles auxquelles le président doit s'attaquer et trouver des solutions. Mais il est arrivé aussi dans un contexte où le déficit, comme je l'ai rappelé, est très important. La dette aussi. Et je crois que c'est peut-être ça là aussi l'élément qui est le plus surprenant. C'est le fait que les chiffres sur lesquels pouvait travailler sur le déficit et sur la dette, lorsqu'ils arrivaient dans les réalités du pouvoir, ces chiffres-là sont encore plus élevés que ce que vous pouvez imaginer. Et c'est un contexte aussi qui fait que ce contexte-là aussi, vous devez le prendre en compte et essayer de trouver des solutions. Mais encore une fois, le plus important aujourd'hui, c'est la situation économique et surtout les jeunes et leur trouver de l'emploi.
Et c'est à ce titre-là d'ailleurs que le gouvernement dit vouloir relancer l'industrialisation du pays, transformer par exemple sur place les arachides qui sont interdites d'export. Il s'agit de donner de l'emploi aux jeunes. Chaque année, 200 000 jeunes arrivent sur le marché de l'emploi, à ces jeunes qui ont contribué largement à cette victoire du PASTEF. Alors comme comme chaque vendredi, notre partenariat avec l'association de dessinateurs de presse Cartooning for Peace nous donne une idée de la façon dont, dans leur pays, des dirigeants aujourd'hui sont caricaturés quand ils le sont et quand ils ont la chance de l'être, j'ai envie de dire. C'est notre sujet d'actualité vu par les caricaturistes. Cette semaine, un dessin signé Odia, le précurseur des caricaturistes sénégalais. Alors, on y voit le Premier ministre Ousmane Sonko en fossoyeur, en train de jeter à grande pelletée du sable sur une tombe. Sigi, la 14e législature 2022-2024 et de héler le président Faye. Tu peux venir maintenant et faire ta déclaration de politique générale. Ça tombe bien, lui répond le président. Donc cette assemblée aujourd'hui au Sénégal, elle est très majoritairement composée de députés du PASTEF, puisque les élections législatives en novembre dernier ont donné une large majorité au parti au pouvoir. Que aujourd'hui, où en est El Gass, cette analyse dominante qui a longtemps fait du Sénégal un pilier démocratique du continent, c'est quelque chose que vous avez pu regretter d'ailleurs dans des essais ou des articles précédents, qu'on n'en parle que comme cela. Où en est cette démocratie qui, aujourd'hui, est le garant au Sénégal de ce qu'elle ne tirera pas trop vers les pleins pouvoirs, entre guillemets?
Oui, c'est le récit glorieux que l'on fait de notre démocratie, et parfois à raison, quand on voit le chaos chez les voisins, on peut s'enorgueillir. Moi, j'avais fait un papier dans Le Monde que j'avais appelé le coup d'État démocratique, et quand Bassirou Diomaye Faye est arrivé au pouvoir. Il me semble qu'il ne faut pas être dans un catastrophisme en considérant que PASTEF met à sac le pacte démocratique. Il essaie à sa mesure de le consolider. Après l'avoir assez violemment attaqué aujourd'hui au pouvoir, il contribue peut-être à l'ancrer davantage. J'espère qu'il y a des garde-fous et énormément de sentinelles pour essayer de préserver cette démocratie sénégalaise.
Et par exemple, ces pressions sur les médias que eux dénoncent en disant nous fait fermer, mettre la clé sous la porte sur des prétextes économiques, alors que sans doute on essaye de nous mettre la bride autour du cou, qu'est-ce que vous en pensez?
Mais c'est ce que je disais encore une fois, c'est que PASTEF a été le martyr d'un système. Il se considère comme tel, d'un système qui a été politique avec ses déclinaisons médiatiques. Et il n'avait pas voix au chapitre. Il a dû se construire, justement, une forme de contre-société médiatique pour pouvoir exister, en surfant naturellement sur la prospérité, justement, de sa popularité dans les médias. La vérité, c'est que au Sénégal, nous avons un univers de la presse qui est encore informel, avec des manias qui trônent au-dessus de grands groupes, mais un système qui reste informel. Si on applique une forme de sévérité absolue, et donc ce logiciel fiscal, naturellement, ceux qui en sont les cibles, y verront les manifestations les plus éclatantes, justement, d'une forme de chasse aux sorcières. Et on est dans cela. Je pense que il faut peut-être regarder les choses de façon assez lucide et inviter un peu plus de complexité. Oui, on peut sentir parfois, dans la volonté d'affirmation de PASTEF, des relents d'un désir si on est bienveillant, on dit de revanche, et si on est malveillant, on dit de vengeance. Mais il y a un peu de ça. Mais je pense que la bombe à retardement, c'est vraiment la question économique. Et PASTEF ne pourra pas longtemps se détourner justement de cette question. Il y a deux unanimités au Sénégal. Oui, l'ancien régime a grévé sérieusement les finances de l'État par une forme justement de légèreté coupable. Et il y a une autre aussi évidence qui crée l'unanimité, c'est que la reddition de comptes est absolument nécessaire pour créer l'exemplarité. Mais est-ce que PASTEF le fait avec une certaine forme de lucidité, de justice? Est-ce que toutes les cibles sont traitées de manière parfaitement égale? On peut parfaitement douter de cela, et j'espère que cette tradition de reddition de comptes qu'on a vu sous Macky Sall avec la CRI, la Cour de répression de l'enrichissement illicite quand il est arrivé au pouvoir, et la Haute Cour de justice actuelle, voilà, ne feront pas naître justement un vide derrière.
Vous nous rappeliez, Babacar Ndiaye, que l'année dernière, déjà, un grand dialogue national s'était tenu, qui avait pour thème la justice, avec plusieurs réformes qui avaient été avancées, dont la création d'un juge des libertés pour accélérer la libération de certains prisonniers, vider les prisons de tous ceux qui y ont été enfermés pour des raisons peut-être politiques, même si par ailleurs le délit d'opinion existe toujours. Est-ce qu'il est question aussi de réviser, d'abroger ces articles du code pénal qui existent au Sénégal, qui ont permis sous Macky Sall de faire envoyer en prison des milliers de personnes?
Oui, je crois que le débat sur la justice a porté sur ces éléments-là, parce que je crois qu'il y a un élément qui est important. Il faut rappeler que le président de la République et le Premier ministre ont été en prison un mois avant l'élection du président Diomaye Faye. Et je crois que c'est une question qui est importante au-delà des dirigeants, mais aussi des Sénégalais, parce que vous le rappeliez, ces dernières années, on a parlé presque de 1 000 à 1 500 personnes qui sont retrouvées dans les liens de détention, des fois dans le cadre de manifestations. La justice est un pilier important dans une démocratie. Et je crois que cette discussion qui a eu lieu l'année dernière, qui s'est poursuivie avec aussi les assises sur la justice, ont pu aboutir à des consensus, j'allais dire, dans des points de changement au sein de la justice. Et le président a rappelé qu'à chaque fois qu'il y aurait un consensus sur un point pour renforcer la justice, ce consensus-là serait traduit en proposition de loi ou en projet de loi. Donc nous attendons toujours de voir finalement, et je pense qu'il a indiqué hier que d'ici un mois et demi, le comité de travail va rendre le rapport justement sur les points de consensus liés à ces assises de la justice. Et là, nous en saurons un peu plus sur les changements qui vont arriver dans le domaine de la justice et les mécanismes aussi à prendre en compte, justement pour renforcer la justice qui est un maillon important et que les Sénégalais aussi sont très sensibles à cette question d'avoir une meilleure justice.
Une rapide conclusion, Helga, s'il vous plaît, puisque dans votre dernier essai, vous disiez que à la difficulté d'identifier tous les ressorts d'une relation encore toxique, la France-Afrique était devenue une réponse toute trouvée pour de nombreux gouvernements en Afrique et qu'il fallait, disiez-vous, se débarrasser du ressentiment qui pèse de son poids mort, cette amertume constante qui parasiterait l'âme. Est-ce que vous avez l'impression que même si aujourd'hui il y a certains bras de fer engagés avec la France, les nouveaux hommes forts du Sénégal vont au-delà d'une pensée relâchée et vengeresse?
Oui, je ne pense pas qu'ils s'inscrivent justement dans une dynamique ressentimiste. Bien sûr, ça a été un argument de leur popularité, un discours facile, c'est-à-dire un ciblage comme ça très très généreux de la France, mais parfois à raison. La contestation politique justement du passif français est une vieille marotte et naturellement elle a toute sa légitimité et toute sa place dans le débat. Je ne vais pas faire le procès de Pastef de façon précoce, c'est ce que je disais au tout début de mon intervention, je pense qu'il faut leur laisser le temps. Pastef a un grand ennemi. C'est être confronté à tout ce qu'il a promis et tout ce qu'il a dit et toute la générosité avec laquelle elle a adressé des critiques à tout le monde. Et c'est à ce moment-là qu'on verra véritablement la réalité de la vérité de son pouvoir.
D'où la nécessité d'avoir des sentinelles comme vous, Helga, et comme vous, Babacar Ndiaye. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Babacar Ndiaye depuis Dakar, où vous êtes directeur de recherche pour le laboratoire d'idées Wati. Et vous, Helga, ici en studio, je rappelle le titre de votre livre, Les bons ressentiments, essai sur le malaise postcolonial aux éditions Rive-Neuve. Hey.
ñolek xal su rab bi sa rab bi xos na si ngam lay yey ñango sa dombi gi ñol lay nek sandi te xer bi si ñom lay yem.
Le groupe Karabalik Beat, c'est sa chanson Si Lolennek, c'est du Wolof. Pour conclure cette table ronde sur le Sénégal, merci beaucoup Marc Semo d'avoir été avec nous également. On vous retrouve vendredi prochain avec Mélanie Chalandon et ses invités. Lundi, dans Culture Monde, nous commencerons une nouvelle série sur le climat, la transition qui continue malgré tout. Et quand je dis malgré tout, c'est malgré des COP décevantes, un pacte vert européen revu à la baisse, un président états-unien climato-sceptique entre autres. On verra comment la diplomatie climatique avance encore, comment des élus aux États-Unis entrent en résistance, comment la Chine déploie les renouvelables à grande échelle et comment les États insulaires font bouger la justice climatique.